Été 1983, en France, sur toutes les radios et télévisions, on n'entend que ça. Ça, c'est Indochine et leur premier tube, L'Aventurier.
Vous connaissez le groupe Indochine sûrement.
Mais bien sûr.
Un des grands succès de l'été. On trouve le groupe Indochine.
C'est le plus grand groupe français, le groupe Indochine.
Salut, c'est Nicolas.
Hello, c'est Dimitri.
Moi, c'est Dominique.
Et moi, c'est Stéphane.
Bonjour et bienvenue dans cette 32e visite du Panthéon décousu sur Radio Alpa. Cette semaine, c'est 3 nuits par semaine, L'Aventurier, Alice et June à Canary Bay. Alors je suis tenté de dire salut les petits clous. Cette année, Indochine a 40 ans et on va voir que malgré le lieu de leur premier concert, tout n'est pas rose bonbon. Plantons le décor, 81, Valy chante le tube, chacun fait ce qui lui plaît. Témoignage dans le doc sur Indochine en 2017 pour France 4, d'où sont tirés tous les premiers sons.
C'était les débuts des radios libres. Si on aimait la musique, on pouvait le trouver partout. On était en train de quitter ce qui était la variété française, qui était encore très forte à cette époque, et aller un peu vers le pop et le rock, le pop rock. C'était cette transition-là qui était intéressante à cette époque-là en France.
Prénom Nicolas, nom Sirkis. Naissance en banlieue parisienne le 22 juin 1959, Stéphane, le frère jumeau, arrive quelques minutes plus tard, mais partira beaucoup trop tôt. Et il y a aussi un grand frère, Christophe. Papa est atomiste, maman chimiste, et l'enfance, les jumeaux Sirkis la passent à Bruxelles, car papa est l'un des premiers fonctionnaires nommés au Parlement européen.
C'est des enfants de plutôt bonne famille. Les parents se séparent assez jeunes, et les jumeaux, donc du coup, vont à Bruxelles, où leur père vit. Et c'est quelqu'un de pas très facile. Ça se passe pas très bien entre les deux garçons et le père. La mère est quelqu'un aussi d'assez droite. Elle sait ce qu'elle veut. Toute la première partie, c'est pas rigolo.
À 11 ans, c'est la pension avec son frère à Estaing-Puis en Belgique, près de la frontière française. Un établissement réputé pour la dureté de ses méthodes. À 13 ans, il retourne à Paris, retrouve sa mère à qui il dit vous. Une mère qui le place très vite en école technique pendant que Stéphane, lui, s'essaie à la musique avec son grand frère Christophe. Le tout avec la bénédiction des parents.
Nicolas, à Paris, est plutôt dans l'écriture. Ses frères à Bruxelles commencent la musique. C'est important.
Nicolas veut mettre ses mots en musique. Il répond alors à une petite annonce dans le magazine Rock and Folk. Groupe de rock cherche un bassiste et un chanteur. Patatras, Nicolas est recalé lors du casting, mais il rencontre à cette occasion un musicien. Son nom, Dominique Nicolas. Dominique grandit à Chevilly, en banlieue parisienne, mère fonctionnaire, père artisan. On le dit rêveur, énigmatique. Entre Dominique et Nicolas, le courant passe tout de suite, c'est électrique, c'est évident. Ensemble, ils décident de monter un groupe de rock.
Au début, c'était une relation surtout amicale, après c'est devenu une relation amicale, amoureuse, entre parenthèses. Et bon, et à cela s'est ajouté enfin, la relation professionnelle, donc il y a ces trois facteurs maintenant qui sont associés, donc c'est mieux des fois de jouer ensemble pour le plaisir. Enfin.
Lui, c'est Dimitri, le futur troisième Indochine. 1981, il rejoint le duo car il joue du saxophone, un instrument très à la mode à l'époque. 35 ans après, il se souvient comment l'aventure indo a commencé pour lui.
Alors la première rencontre, c'est avec Nicolas, un pote de ma grande sœur. Chez mes parents, on habitait dans le centre de Paris avec un grand appartement. Et mes parents voyageaient beaucoup, donc il y avait beaucoup de fêtes quand ils n'étaient pas là. Et puis voilà, je sais pas, bien 4-5 ans avant Indochine.
Enfin, il y a Stéphane, le frère jumeau, qui s'ennuie à la Plagne où il est devenu moniteur de ski. Il rejoint le trio qui a besoin d'un clavier. Mais Nicolas, le frère jumeau, ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de Stéphane dans ce projet de groupe.
Non, au début, non, il voulait pas trop, justement, parce qu'il voulait montrer que c'était lui, il arrivait à faire quelque chose et tout. Puis en fin de compte, ça s'est super bien passé. Non, il était très cool. Il est cool, mon frère.
Ouais, cool, on verra. Alors là, deux points importants. Stéphane est le dernier recruté et Nicolas, lui, a raté 4 fois le bac, donc il veut réussir au moins le groupe. C'est important pour la suite.
29 septembre 1981, date fondatrice du groupe. Le Rose Bonbon est le lieu branché du moment à Paris. Indochine y décroche un concert. Problème, Nicolas doit partir faire son service militaire obligatoire à l'époque.
J'ai été incorporé au mois d'août, le premier concert était un mois après, donc j'ai avalé une quinzaine de tranxène. Ils ont mis 3 heures à me réveiller, puis après ils m'ont renvoyé chez ma maman, donc c'était parfait.
C'est samedi soir. C'est Indochine.
Voici un document sonore, les premiers pas d'Indochine sur scène. Les premiers riffs de guitare, ce soir-là, c'est la naissance d'un groupe.
On ne savait absolument ni chanter, ni, enfin ça s'entendait un peu, hein, ni chanter, ni jouer de la guitare.
On a fait le premier concert où on était comme ça, ça s'est bien passé, c'était 2 accords plaqués, une énergie. Et tout de suite, parce que bon, moi j'avais joué dans 3-4 groupes avant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent.
C'est assez garage, démarche punk. Nicolas au micro de Jackie sans Dorothée.
Normalement, la démarche à faire, c'est envoyer une cassette avec les morceaux que t'as enregistrés dessus et puis la donner aux maisons de disques.
Et comment t'as fait, toi, alors?
Et ben, nous, ce qu'on a fait, on a fait un concert.
Il était plein?
Et puis, il était plein, et puis il y a des gens qui sont venus et puis ils ont dit, bon, mais voilà. Faites un disque.
Après le concert, le prestigieux label Pathé Marconi convoque Indochine. On vous veut dans notre équipe, leur disent-ils. Mais il faut changer de nom. Indochine, c'est trop polémique.
C'est un passé assez problématique par rapport à la France, etc.
Déterminé à ne rien lâcher, Sirky Senko refuse la jolie proposition du label.
Je me souviens très bien, je disais à Nicolas, on rentrait chez lui, je le ramenais chez lui dans la voiture. Et je lui dis, tu vois, le nom qu'on a, je pense que ça marchera jamais. Parce que déjà, quand on va dire Indochine, les gens ils vont nous prendre pour des fachos. Et Nicolas me dit, ah, tu crois. Et puis après, je me suis trompé.
C'est à vous, 2 septembre 2020.
Ça a été assez violent parce que tout de suite, on nous a dit « Non mais prenez pas ce nom-là, ça ne marchera jamais. Vous avez un tube, vous n'en avez pas en avoir un deuxième. Vous allez tenir 6 mois. » Donc ça a été tout d'un coup « Ah ouais ». Et finalement, on a toujours cru en nous. Alors après, est-ce que c'est prétentieux ou pas? Mais enfin, voilà, le message, c'est de dire qu'il ne faut jamais briser les rêves des gamins ou d'autres. Et puis, il faut toujours croire en ses rêves. Quelque part, on y arrivera. Et on y arrive.
Le seul qui croit en eux est l'un des chanteurs les plus populaires du moment, la balade des gens heureux, et si j'étais président, c'est lui. Autant dire, pas le même monde. Il cherche aussi à produire, alors Gérard Lenormand signe Indochine.
T'es séduit, parce que j'ai entendu, j'ai dit ok, on produit. J'étais, moi, un peu un fantôme par rapport à eux. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir de contact particulier avec eux, parce que je pense qu'il fallait les laisser dans leur univers, et moi, rester dans le mien.
Oh ! Indochine enregistre un premier 45 tours, l'ancêtre du single. Il s'appelle Dissidence politique. Il est question de dictature communiste, de goulag et d'hôpital psychiatrique. C'est clairement une chanson politique.
Et on va terminer comme on le fait à chaque fois avec la fête. La fête dans l'émission avec un des tout premiers titres d'Indochine qui, paraît-il, à l'époque n'avait pas très bien marché. Maintenant, alors, c'est quel tube ?
Si vous l'avez reconnu, vous avez sans doute plus de 40 ans. En 86, Philippe Risoli présentait la nouvelle affiche sur France 3. Au casting aussi, Lio, Jackie Quartz et Muriel Moreno de Niagara dans les chœurs, Woolsey à la guitare. Oh. Mais d'où vient le nom du groupe? Chez De La Housse, un dimanche soir de 2018.
À 16 ans, j'ai commencé à lire Marguerite Duras et j'ai été bercé par sa musique, qui fait que moi, ça m'a parlé. Ça, c'est tout de suite ce que j'avais eu envie de lire. Après, j'ai été super intéressé par ce qu'elle avait vécu dans l'Aman, dans le barrage contre le Pacifique. En plus, le fait qu'elle soit décriée aussi par toute une littérature française, ça m'a aussi intéressé. Puis, j'ai vu qu'elle avait vécu en Indochine. Je trouvais qu'il y avait une sorte de parfum d'exotisme. Voilà, parce que c'était une sorte de vieille France coloniale qui habitait là. Et c'était pas que des militaires qui faisaient du mal, c'était aussi.
Et donc, beaucoup de titres sont très connotés, Asie plus ou moins fantasmée. Lunettes noires pour nuit blanche en avril 89.
Il y en a un du groupe qui avait dit on fait de la mayonnaise. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Je crois qu'on avait expliqué en disant qu'effectivement on savait pas très bien ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on faisait, on mettait des synthés, on mettait une boîte à rythme, on mettait une fois un batteur, une fois une guitare, que c'était entre du rock and roll, du machin, de la. Enfin, ouais. Donc ce qui faisait une sorte de mayonnaise. Ouais. Libé a titré, ils font du rock mayonnaise.
Nicolas s'occupe des textes et Dominique, lui, geek avant l'heure, construit le son de ce qui sera bientôt Indochine.
On enregistre le son dans l'appareil et on le rejoue avec le clavier en deux mots, c'est ça. Donc ça donne un peu ça.
Donc il y a bien le noyau créatif Nicolas Dominique. Alors quand à la RTS il dit...
Indochine, vous fonctionnez comment? Il y a un leader dans le groupe?
Non, de manière fédérale et démocratique, comme ici. C'est-à-dire que tout le monde parle et tout le monde dit. Non, il n'y a pas de leader. Quoi. On essaie de faire Indochine, c'est 4 personnes, il n'y a pas de problème.
Je m'interroge et ce n'est que le début. D'accord.
Alors c'est Dominique qui compose toutes les musiques, pratiquement? Un petit peu toi aussi?
Non, enfin moi j'ai composé qu'un instrumental. Dominique, en fait, c'est lui qui apporte tout le son d'Indochine, parce qu'il travaille beaucoup chez lui. Et puis moi j'écris les textes, et puis après le groupe se voit pour structurer et tout ça, quoi.
Et tu es le seul qui parle?
Non, mais il parle.
Alors ça, c'est le frère jumeau.
C'est lui qui pose les questions. C'est lui le frère jumeau, ouais. Ça, c'est Stéphane, Dimitri, Dominique, enfin bon, voilà, quoi.
Le frère jumeau est soit le dernier nommé, soit vite esquivé. Le premier à partir, c'est Dimitri. La mode a tourné, le groupe évolue. Stéphane, Doc Caméscope.
C'est du fait que Dominique soit parti. C'était un des membres les très importants fondateurs d'Indochine, mais c'est pour moi, Nicolas, il n'était pas question que... Parce qu'il partait, que c'était fini. Quoi. On avait toujours envie de continuer Indochine et c'était presque un pari de le continuer.
Nicolas, dans Café Picouli sur France 5 en février 2007. Ah, la bonne ambiance du bar dans le monde d'avant.
Il y a un écrivain qui a pour moi été capital et important dans l'écriture, dans la lecture, c'était Salinger. Je ne suis pas le seul,
Mais...
c'est pas un exploit, mais c'est à la fois d'une réalité, c'est d'une violence pacifique énorme. Quand on a 15 ans, 20 ans, on est terrifié de devenir adulte parce qu'on se rend compte que le monde adulte est en fait une sombre fumisterie de ce qu'on nous avait présenté à l'enfance.
Et la relation avec les parents, parce que dans Salinger, il y a l'incompréhension absolue entre ce jeune homme et ses parents. Est-ce que vous avez vécu dans ce type de rapport, vous, avec vos parents?
J'ai pas eu, moi, de malchance avec mes parents du tout, mais c'est vrai qu'il y a toujours forcément une incompréhension.
Et ça, tu peux le dire.
J'ai toujours composé, j'ai toujours eu des titres. Si j'en ai eu un ou deux par album, c'est peut-être que les autres étaient moins bons et que Dominique était meilleur, certainement. Mais c'est vrai que c'était un noyau créateur qui a été très... C'était très, très difficile pour moi d'intervenir. Maintenant que ce noyau s'est un peu décomposé, c'est plus facile de travailler avec Nicolas directement.
Les silences de Juliette, musique de Stéphane, ici en Belgique en 97. Il lui reste moins de 2 ans à vivre.
Un de ces quatre, je vais m'imposer en disant ouais, mais maintenant je veux faire un clip aussi, quoi. Parce que c'est Nicolas qui amène tout le côté un peu visuel. Bon, il nous impose strictement rien. Je veux dire, s'il arrive avec des trucs complètement farfelus, et ça peut lui arriver, hein, c'est arrivé, on lui dit ça va pas,
tu dégages avec ton idée, c'est hors de question, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre mystère Indochine? Les quatre fondateurs, Nicolas, Stéphane, votre frère, Dominique et Dimitri, vous êtes le dernier survivant de ces quatre fondateurs. Votre firme est même disparue. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un mystère à ce que Indochine, l'esprit d'Indochine, soit incarné maintenant par une personne?
J'appellerais pas ça un mystère. Moi, j'ai toujours dit qu'effectivement, un groupe a toujours plusieurs vies. J'ai eu plusieurs vies, comme en Asie. Indochine a plusieurs vies. Et peut-être là, on en a deux. Peut-être qu'on en aura une troisième, peut-être pas, je ne sais pas.
Moi, nous rappelle, le groupe est sur deux capitales. Émission télé non identifiée vers 93.
Non, parce que lorsque vous êtes sur scène, on a vraiment l'impression que c'est une histoire de trois potes.
Ça, c'est la magie. Mais c'est vrai que bon, Stéphane maintenant habite Bruxelles, nous on habite Paris, donc c'est difficile, mais on se voit quand même vachement souvent. Ouais. Il y a un moment donné où quand on travaille tout le temps, il faut avoir des petits moments de break, parce que sinon, à un moment donné, on peut plus.
Se prend la tête.
Ouais, c'est ça. C'est
Dominique ça. Tape sur Stéphane.
Non, il s'est pas violent.
Non, c'est surtout Nicolas, ça fait quand même 31 ans que je le supporte, donc c'est vrai qu'il faut se voir moins souvent avec Dominique, ça va très bien par contre.
M6.
En 2009, son frère Christophe publie un livre très embarrassant. Il laisse entendre que Nicolas porte une lourde responsabilité dans la mort de leur frère Stéphane en 1999.
Marie Drucker, France 24.
Il y a un livre qui vient de paraître écrit par votre autre frère, un livre qui est très dur contre vous. Est-ce que vous l'avez lu ?
Non. Mais je crois savoir qu'il y a à peu près 3-4 livres qui sortent en ce moment. Sur nous. Et là-dedans, je trouve qu'il y a des marchands de mort et il y a des marchands de vie. Moi, j'ai choisi la vie.
À la demande de Nicolas Sirkis, 687 phrases seront supprimées du livre avant sa sortie. Mais devant nos caméras, son frère ne mâche pas ses mots.
Les marchands de mort sont ceux qui décident qu'un groupe doit continuer alors que quelqu'un est en danger de mort et qui n'en tiennent pas compte. Les marchands de mort sont ceux qui mettent quelqu'un qui devrait être à l'hôpital sur scène alors qu'il tient à peine debout et qu'il est très malade. Les marchands de mort sont ceux qui font tout un appel à la compassion lorsque finalement Stéphane est mort.
Malgré son contenu explosif, le livre ne connaîtra qu'un succès relatif. Il faut dire que pour le neutraliser, Nicolas Sirkis a choisi de l'ignorer totalement. Hugues Royer est journaliste et auteur de biographies non autorisées d'artistes. Il nous explique qu'en cas d'attaque violente venue de son entourage, la star a souvent recours à une technique de défense quasi imparable.
Je pense que quand on est l'objet d'un livre écrit par un proche, il vaut mieux sûrement être dans un silence qui va être un silence finalement salvateur. Je pense que le silence va aider finalement le public à oublier ça très vite. Car on est dans une société aussi de zapping qui fait qu'il y a un buzz à un moment donné et puis 3 jours après, on est dans un autre buzz.
Je ne sais pas ce qui est vrai, mais leur père, né en Moldavie en 1925, naturalisé français et ancien fonctionnaire européen, a fait un long témoignage assez glaçant. Il ne voit plus Nicolas depuis très longtemps. Extrait.
Nicolas et sa mère nous ont concrètement empêchés de venir en aide à Stéphane. Je tiens à ajouter qu'il était anormal que Nicolas tire de gros profits du groupe Indochine alors que Stéphane en était réduit à ne recevoir que des miettes quand il en percevait quelque chose. Il était obligé de vivre de façon misérable et ce qui était un véritable scandale. D'autant plus scandaleux que Nicolas semblait trouver cela parfaitement normal. Cela constitue surtout une attitude inacceptable à la mémoire de Stéphane, sans qui il n'aurait jamais pu faire carrière. Nicolas éprouvait probablement de la jalousie à l'égard de Stéphane. Il l'a empêché de s'y épanouir de toutes les façons possibles, ainsi que Stéphane s'en est plusieurs fois ouvert à moi.
Stéphane et moi, on s'était juré qu'on voulait passer le cap de l'an 2000. Et même si, effectivement, il n'est plus là physiquement, il est là aussi, donc c'est ça va.
Ouais, pas convaincu je suis. Le 6 juin 2006, le groupe fête ses 25 ans avec l'orchestre de l'Opéra de Hanoï au Vietnam.
Dans la rue, t'es tenue charmante, maquillée comme mon fiancé. Garçon, fille, l'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée. Cheveux longs, cheveux blancs colorés,
comme ma fiancée. Pour les filles sans contrefaçon, maquillée comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter.
Avec Christine and the Queen, c'est à vous, septembre 2020. Alors, en mode doigt d'honneur, posture ou engagement?
Avec toujours la volonté de passer des messages, comme vous le faites encore ce soir, de lutte contre l'intolérance, contre l'obscurantisme. Deux exemples de concerts, 2001-2013.
Un doigt pour George, un doigt pour Bush.
Oh, que c'est bien.
Au moment de la manif pour tous, Pierre était comme ça, quoi.
Oui. C'est trop beau. Oui. Bah, et puis dernièrement, il y a Trump. Ouais, Christine Boutin, c'était en 2014, c'était odieux ce qu'elle avait dit sur le mariage gay. Et puis une partie des ultra-conservateurs français aussi, c'était assez odieux, c'était dur.
Premier groupe français à remplir Bercy, premier groupe français à faire le Stade de France. Et la première fois, c'était en 2010.
Un ange à ma table avec Suzanne Combeau, qui elle est en vidéo.
Les rafales ont déchiré mes vêtements, et il me reste encore des sentiments. Nos vies reposent sur des casques en métal, je m'endors dans l'asphyxie générale. Je fais les rêves comme si j'avais 1000 ans, un jour je m'appelle, le lendemain je mens. Et comment fais-tu pour t'endormir sans moi? Et comment tu fais pour t'endormir sans moi?
Et c'est bientôt fini pour cette 32e visite du Panthéon décousu sur Radio Alpa. Rediffusion le lundi à 17h30, podcast sur le site radioalpa.com, écoute libre sur la page Facebook et le Mixcloud de l'émission Le Panthéon décousu. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans cet été français en 2017. Autour, un petit peu de repas. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa.
Il a réalisé ce clip, Nicolas Sirkis, et il vous a mis sur le toit de l'Arche de la Défense la nuit par moins 5 degrés.
Oui, il y a eu pire. Il est super froid, ouais.
Ça a été annulé pendant 3 jours parce qu'on est tombé sur la semaine où il y a eu une grosse tempête, où il y avait un vent. Donc tous les drones sont partis.
Des nuits sur un toit à regarder les orages et en courant les dangers. Des éclairs sur ton visage et les étoiles près de toi et nos rêves imparfaits. Le temps d'un été français où on aurait tout oublié.
Et le ciel nous attend. Et le...
c'est les Kids United.
C'est les Kids United.
Ça aurait pu être René Lataupe.
Ça aurait pu être René Lataupe.
Ouais. Non, alors après, je les connais pas, moi, les New Kids on... Non, c'est comment ça
Kids United.
Les New Kids on the
Block. New Kids United on the Block.